الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فهذا اليوم هو 26 من شهر المحرم من عام 1440 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في الدرس السادس من كتاب العبودية لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Nous sommes le 6 octobre 2018 et nous voici réunis pour le sixième cours de l'étude du livre Al-Ubudiyya, la servitude de l'imam Ibn Taymiyyah, qu'Allah Azza wa Jal lui fasse miséricorde. Et lors des dernières leçons et des dernières assises, nous avons vu la différence entre la servitude générale, qui concerne toutes les créatures, et la servitude spécifique aux croyants qui de plein gré se sont soumis à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons vu que la personne qui s'en tient à la croyance en la seigneurie d'Allah uniquement et qui pense que cela est suffisant va tomber dans de grands égarements, parmi lesquels la question du destin, de la foi au destin, al-imanu bi qadar. Nous avons vu que l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, a évoqué la parole du Cheikh Abdul Qadir al-Jilani, qu'Allah lui fasse miséricorde, qui faisait partie des savants et des gens pieux, mais qui après sa mort a été adoré en dehors d'Allah par des exagérateurs desquels il est innocent. Rahimahullah. Cet homme-là a parlé de ceux qui, lorsqu'ils parlent du destin, se contentent uniquement de croire au fait que toutes les choses sont destinées par Allah, subhanahu wa ta'ala, et que, pour résumer, il n'y a pas à réagir face au décret. C'est-à-dire que lorsque l'un d'entre eux commet un péché, il se contente de dire « Ce péché a été décrété par Allah. Je n'ai pas à réagir. » C'est-à-dire par le repentir, la réforme, le retour à Allah, les bonnes actions, l'obéissance. Mais simplement, je me contente de croire que c'est le destin d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et nous avons vu combien cette parole est grave et quel égarement elle est. Et ce cheikh-là, Abdul Qadir al-Jilani, a dit que quant à lui, il réagit face au décret d'Allah par la vérité et pour la vérité. C'est-à-dire qu'il réagit face à ce qu'Allah lui décrète par des choses. S'il s'agit d'un péché qu'il a commis, il ne va pas s'arrêter et dire « Qaddar Allah, Allah a décrété ». Il va s'en repentir, se corriger, il va faire des efforts pour s'améliorer. Tout cela pour arriver à la vérité, à la satisfaction d'Allah, à la voie droite au chemin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a dit que l'homme est celui qui réagit face au qadar, non pas celui qui s'en tient à dire « ceci est le destin », puis il s'arrête là et ne fait rien. Après avoir cité tout cela, l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala nous dit والذي ذكره الشيخ رحمه الله هو الذي أمر الله به ورسوله لكن كثيرا من الرجال غالطوا فإنهم قد يشهدون ما يقدر على أحدهم من المعاصي والذنوب أو ما يقدر على أحد الناس من ذلك بل من الكفر ويشهدون أن هذا جار بمشيئة الله وقضائه وقدره داخل في حكم ربوبيته ومقتضى مشيئته فيظنون الاستسلام لذلك وموافقته والرضا به ونحو ذلك دينا وطريقا وعبادة فيضاهون المشركين الذين قالوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء. Ce qui veut dire, ce que le cheikh a cité, le cheikh Abdul Qadir, correspond à ce qu'Allah a ordonné, ainsi que son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Wa alaykum as-salam. Mais beaucoup de gens se sont trompés. Ils disent qu'ils croient et ils se contentent de croire que les péchés qu'ils ont commis ou que les gens ont commis ont été décrétés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils disent cela a été décrété par Allah, même si c'est de la mécréance. Oui, tout est décrété par Allah. Mais Allah tabaraka wa ta'ala nous demande de réagir et nous ordonne, tout comme il nous interdit. On ne peut pas se contenter ici de dire c'est décrété par Allah, comme pour justifier, voire même valider cela. Et vous allez voir, cet égarement appelle à un autre encore plus profond, jusqu'à amener la personne à l'athéisme complet et à ne pas croire ni en Allah subhanahu wa ta'ala, ni au jour dernier, ni à rien de tout cela. Qu'Allah nous en préserve. Ces gens-là reconnaissent que ceci est le fruit du destin d'Allah subhanahu wa ta'ala et est une des composantes de la seigneurie d'Allah, entre dans le tawhid de Rububiyyah, l'unicité d'Allah dans la seigneurie, et ils pensent que cela est suffisant pour eux. Ils pensent que ceci est une religion. Ils croient que Allah tabaraka wa ta'ala ne leur demande que cela. Croyez que c'est le destin et arrêtez-vous là. Donc si vous avez commis des crimes, si vous avez péché, si vous avez désobéi, dites c'est le destin. En gros, continuez à faire. Parce que tant que c'est décrété, vous ne pourrez pas l'éviter. Ils ont donc fait une différence entre ce que l'on a appelé al-haqiqatu al-kawniyya, la réalité universelle, le décret d'Allah, la seigneurie d'Allah, et al-haqiqatu diniyya, la réalité religieuse, ce qu'Allah nous demande. Il y a ce qu'Allah décrète, et il y a les ordres et les interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Eux n'ont pris que ce qu'Allah décrète et ont délaissé les ordres et les interdits d'Allah. Donc ils ne réagissent pas et ils ne vont pas se repentir du péché. Et vous allez voir que ça va les emmener à déclarer ici toute forme de polythéisme, toute forme de mécréance en Allah. Wal'iyadu billah. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan hafidhahullah nous dit: les gens face au destin sont de plusieurs catégories. Il y a ceux qui croient à l'unicité d'Allah dans la seigneurie et qui s'arrêtent ici. Ils disent: Allah est le créateur, le pourvoyeur, qui donne la vie, la mort, le gérant, celui qui décrète. Ils disent: celui qui a cette croyance est monothéiste. Il a adoré Allah seul. Il a la foi complète. C'est ce que l'on appelle shuhud al-haqiqa, al-haqiqat al-kawniyya. C'est ce que l'on appelle la croyance en la réalité universelle, c'est-à-dire rububiyya, la seigneurie d'Allah. Stop, on s'arrête là. وعندهم أن من بلغ هذا لا حاجة به إلى الشريعة من الأوامر والنواهي والعبادة. D'après eux, celui qui atteint ce niveau se voit exempté et n'est pas dans le besoin d'appliquer les ordres d'Allah Azza wa Jal, de délaisser ses interdits et de l'adorer. Qui sont ces gens-là? وَهَؤُلَاءِ هُمْ غُلَاتُ الصُّوفِيَّةِ وَبَعْضُ عُلَمَاءِ الْكَلَامِ وَالْمَنْطِقِ. Ces gens-là sont les exagérateurs du soufisme, les gens qui sont dans le soufisme le plus profond, et également ceux qui sont appelés ulama ul kalam, dont on a parlé dans le livre Al-Aqidatul Wasatiyya, c'est ceux qui font passer la raison avant les textes, pour le résumer. La deuxième catégorie de personnes face au destin, منهم من يقول إن من أطاع القدر فهو موحد مؤمن إن عصى أمر الله فقد أطاع قدره وهؤلاء هم الجبرية نفوا الشريعة وأثبتوا القدر وغلوا في إثبات المشيئة لله سبحانه وتعالى. Il y a d'autres que l'on appelle al-jabriya. On en a déjà parlé dans le livre al-wasitiya aussi. Ceux-là disent que celui qui se soumet au destin, il accepte tout ce qui est décrété par Allah. Il se contente de cela. Même s'il désobéit à Allah, il a obéi au destin. Il s'y est soumis. Donc il n'y a pas besoin d'ordre et d'interdit. Ils ont exagéré dans la question du destin et dans la question de la volonté d'Allah. Al-Jabriya, ces gens-là ont dit dans la question du destin que nous sommes à l'image de la feuille d'arbre qui tombe de l'arbre et qui se laisse diriger par le vent. Elle n'a pas de libre arbitre, ni de choix d'agir. Pour eux, nous sommes pareils. Allah Azza wa Jalla a décrété au point où nous n'avons pas le choix dans nos actes. Cette parole est bien évidemment un égarement très profond et elle est nulle. La troisième catégorie de personnes, فرقة المعتزلة القدرية الذين نفوا القدر وأثبتوا الشريعة. Il y a l'autre extrême que l'on appelle al-mu'tazila, qui eux dans la question du destin disent qu'il n'y a pas de prédestiné venant d'Allah. Il n'y a que des ordres et des interdits. Et d'après eux, le serviteur est celui qui crée ses propres actions et paroles. وَالْعِيَاذُ بِاللَّهِ. Ils ont donc exagéré dans le libre arbitre. Vous avez vu ? Ce sont donc deux extrêmes. Quatrièmement, il y a les gens de la vérité, أَهْلُ الْحَقِّ يَجْمَعُونَ بَيْنَ الْأَمْرَيْنِ, qui ont su concilier ces deux choses. Quelles sont ces deux choses ? Le décret et les ordres et interdits d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Le décret, c'est ce que l'on appelle al-haqiqatul kawniya. Les ordres et les interdits, c'est ce que l'on a appelé al-haqiqatul diniya. Ils ont su joindre l'un à l'autre. Ils ont cru aux deux. Lorsqu'ils ont été touchés par un malheur, ils ont dit qaddara Allahu wa ma sha'a fa'al. Nous croyons que cela est la volonté d'Allah. Puis ils ont réagi. Lorsqu'ils ont commis un péché, ils ne se sont pas dit « Allah a décrété » et ont continué à pécher. Ils ont dit « Oui, certes, mais il m'a donné des ordres et des interdits. » Sinon, à quoi sert l'ordre de se repentir ? À quoi sert l'ordre d'appeler les gens à Allah ? Pourquoi les appelles-tu à Allah si tu crois que ils sont soumis à ce qu'Allah a décrété uniquement, sans prendre en considération les ordres et les interdits ? C'est un égarement évident. Donc voici les quatre catégories de personnes. Il y a ceux qui croient en la seigneurie d'Allah, et pour eux, il suffit de croire à cela pour se passer des ordres, des interdits, de l'adoration d'Allah, les exagérateurs du soufisme et ceux qui font passer la raison avant les textes. Il y a ceux qui croient au destin et pour lesquels, dès lors que la personne se soumet à la croyance au destin, elle n'a plus besoin de l'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et il y a ceux, comme nous venons de le dire, qui croient qu'il n'y a pas de destin et que c'est le serviteur qui crée ses propres actions. Et après eux, il y a les gens de la sunna. Et donc, vous voyez un peu l'égarement grand, le très grand égarement de ces gens-là, qu'Allah azza wa jal nous en préserve. Ceci étant dit, le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous explique que lorsque le Cheikh Abdul Qadir Al-Jilani nous dit que cette façon d'agir est celle, ou que le Cheikh Ibn Taymiyyah, pardon, nous explique que cette façon d'agir est celle qui a été voulue par Allah et son messager, qu'est-ce qui est voulu par Allah et son messager ? Alayhi salatu wassalam. الإيمان بالشرع والقدر. C'est la foi au destin et aux ordres d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qu'il n'y a aucune contradiction entre ces deux choses. Alors que les autres, eux, comme nous dit le Cheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, se justifient lorsqu'ils commettent le péché, lorsqu'ils commettent la mécréance, et lorsqu'ils voient les gens commettre la mécréance, ils justifient cela par le qadar. Comme l'ont fait les polythéistes, au sujet desquels Allah tabaraka wa ta'ala a dit « سَيَقُولُ الَّذِينَ أَشْرَكُوا لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا وَلَا آبَاؤُنَا وَلَا حَرَّمْنَا مِنْ شَيْءٍ » Et les polythéistes diront « Si Allah l'avait voulu, nous n'aurions rien associé. » Regardez, c'est le même égarement que les polythéistes. Lorsqu'on les a réprimandés, lorsqu'on les a appelés à Allah, subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Si Allah avait voulu, nous n'aurions rien associé à Allah. C'est-à-dire, nous n'avons pu le faire que parce que c'est le destin. Donc, nous sommes excusés, nous explique le Cheikh Salih al-Fawzan. Voilà où est-ce qu'ils veulent en arriver. Ils disent, nous sommes excusés. Donc, ils commettent le shirk, la mécréance, et se trouvent des excuses à cela. Vous voyez bien que l'égarement est gravissime et profond. C'est pour cela qu'ils disent, nous n'avons besoin ni d'or ni d'interdit. Parce que d'après eux, la croyance au destiné, à la destinée, est suffisante au point où, comme nous dit le Cheikh Ibn Taymiyyah, rahimahullah, ils pensent que cela est une religion, une voie à suivre, une adoration d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Al-Sheikh Salih al-Fawzan nous explique que ces gens-là pensent que le simple fait d'agréer le destin est une religiosité envers Allah. C'est une façon d'adorer Allah. C'est une soumission à Allah, subhanahu wa ta'ala. Il nous dit, فَهُمْ بِزَعْمِهِمْ أَنَّهُمْ أَطَاعُوا اللَّهَ فِيمَا قَضَى وَقَدَرْ وَهَذَا هُوَ عَيْنُ قَوْلِ الْمُشْرِكِينَ الَّذِينَ أَخْبَرَ اللَّهُ عَنْهُمْ فِي سُورَةِ الْأَنْعَامِ. Cette parole-là est exactement la parole des polythéistes au sujet desquels Allah subhanahu wa ta'ala nous dit ce que vous venez d'entendre. C'est-à-dire, si Allah l'avait voulu, nous n'aurions rien associé. Qu'est-ce que tu remarques? Tu remarques que il y a des gens chez la masse des musulmans qui prononcent des paroles gravissimes. Lorsque tu les appelles à Allah, lorsque tu veux les corriger, lorsque tu veux les conseiller, ils te disent c'est Allah qui a voulu. Et si Allah l'avait voulu, je ne l'aurais pas fait. Lorsqu'ils sont appelés à l'adoration d'Allah, ils disent « Si Allah l'a décrété, j'irai ». Lorsque la saison du pèlerinage arrive, et que l'un d'entre eux, parmi ceux qui ont les moyens physiques et financiers, est appelé à accomplir le pèlerinage, qu'est-ce qu'il te répond ? « Si Allah m'invite, j'irai ». « Si Allah m'appelle, j'irai ». Regardez l'ignorance, à quoi elle te fait ressembler. Et voyez ainsi l'importance d'obéir à Allah, l'importance de l'apprentissage de la religion d'Allah, subhanahu wa ta'ala, afin de ne pas dire des paroles graves. Les polythéistes ont donc cherché à trouver, pour se justifier comme moyen, le destin. Qu'Allah nous en préserve. Ils ont voulu en cela dire qu'Allah est satisfait de ce que nous avons fait, puisque c'est lui qui l'a décrété. Nous explique le Cheikh al-Fawzan. Qu'est-ce qu'Allah Azza wa Jalla a répondu alors? Il leur a dit قُلْ هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ عِلْمٍ فَتُخْرِجُوهُ لَنَا أي هَلْ عِنْدَكُمْ دَلِيلٌ عَلَى مَا تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ subhanahu wa ta'ala. Dis-leur, avez-vous donc un argument à nous faire sortir? Vous avez des preuves pour ce que vous dites? Vous parlez d'Allah de cette façon. Vous dites qu'Allah en est satisfait. Quelle est la preuve qui vous appelle à cela? Et ça te montre l'éducation du tawhid, l'éducation de la sunna. C'est toujours de demander la preuve. Lorsqu'il y a une prétention en rapport avec la religion, de demander la preuve. As-tu une preuve à me sortir? as-tu une science que je n'ai pas dans ce sujet à me présenter ? Et ne pas suivre les yeux fermés à l'aveuglette, comme on dit, mais plutôt demander les preuves du Coran et de la Sunna. Ce qui est voulu, naam, la fin du verset, in tattabi'una illa dhanna wa in antum illa takhrusun. Vous ne faites que conjecturer et vous ne faites que parler sans science. Takhrusun tatakallamuna bi ghayri ilm. Le Cheikh Salih Al-Fawzan nous dit laysa 'indakum burhan 'ala anna Allah radiya fi'lakum hadha. Vous n'avez aucune preuve qu'Allah est satisfait de votre action qui est celle-ci. Wa innama tattabi'una dhann والخرص بل البرهان والدليل يدل على أن الله حرم الشرك والمعاصي ولم يرضى بهما. Au contraire, la preuve montre qu'Allah a interdit cela et qu'il ne l'a pas agréé. Oui, Allah décrète, subhanahu wa ta'ala, mais Allah interdit des choses. Et ça, c'est la réponse que tu donnes à toute personne qui te dit Allah l'a décrété de toute façon, donc je le fais. Tu lui réponds: il y a le décret, mais il y a les interdits d'Allah. Et cette chose-là t'est interdite par Allah Azza wa Jal. Tu as su voir qu'il y a le décret, mais d'un coup tu as fermé tes yeux. Tu es devenu aveugle au point où tu n'as pas vu les autres versets qui t'interdisent de faire ce que tu fais. Ça, c'est le résultat de la croyance ou du fait de se contenter à Tawhid al-Rububiyya ou alors al-Haqiqatul Kawniyya ou alors al-Ubudiyyatul Amma, uniquement à la servitude générale dont nous avons parlé. Également, nous voyons dans le Coran qu'Allah tabaraka wa ta'ala a envoyé les messagers pour appeler les gens à Allah, à délaisser leur désobéissance et à revenir vers lui. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. Et nous avons envoyé à chaque communauté un messager pour leur dire adorez Allah et éloignez-vous du tagout. Donc pourquoi les polythéistes disent لَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا أَشْرَكْنَا, si Allah l'avait voulu nous n'aurions rien associé, alors que ces mêmes polythéistes ont entendu les versets où Allah Azza wa Jal, dont eux parlent, a dit qu'il a interdit ce shirk et qu'il a envoyé tous les messagers pour leur interdire. Donc on ne peut pas se contenter d'un côté et délaisser l'autre. Également, ils ont dit lorsqu'ils ont été appelés à dépenser dans la voie d'Allah et à offrir aux besogneux les aumônes, ils ont répondu: allons-nous nourrir ceux qui auraient été nourris par Allah s'il l'avait voulu? Vous avez vu? Encore une fois là, ils se contentent de la croyance au destin. Il y a la croyance au destin, mais il y a les ordres et les interdits d'Allah. Ils ont été appelés à dépenser et ils ont dit allons-nous leur donner de quoi se nourrir? Alors que si Allah le voulait, les nourrissait. Vous voyez, ils ont été égarés dans ce chemin-là. Wal'iyadu billah. Et ça, c'est la preuve suivie et utilisée par les Jabriya. Jabriya qui disent que nous sommes comme la feuille de l'arbre qui tombe. Nous sommes soumis au décret d'Allah, on ne peut rien faire. Donc si on ne peut rien faire, on va délaisser la prière. On ne va pas demander pardon à Allah pour nos péchés. On ne va pas lui obéir. Et parce que s'il a décrété le paradis à l'un d'entre nous, il y entrera. Et si c'est l'enfer qui est décrété, il y entrera. Et on va tout délaisser. Et vous allez voir que c'est ce à quoi ils arrivent, justement, dans le développement de ce livre de l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah. Al-Sheikh Salih Al-Fawzan nous dit: ولذلك فإن أهل الإيمان جمعوا بين الأمرين فآمنوا بقضاء الله وقدره وآمنوا بشرعه. Les gens de la foi ont réuni ces deux choses. Ils ont cru au décret d'Allah, ils ont cru aussi à sa législation, ses ordres et interdits. وَفَعَلُوا الطَّاعَاتِ وَتَرَكُوا الْمَعَاصِي وَالْمُحَرَّمَاتِ. Ils ont accompli les obligations et délaissé les interdits. Ils ont donc uni tout cela Et c'est ainsi qu'il n'y a pas de contradiction. Alors que eux, Al-Jabriya, ils ont dit أَنُطْعِمُ مَنْ لَوْ يَشَاءُ اللَّهُ أَطْعَمَهُ. Allons-nous nourrir ceux qui auraient été nourris par Allah s'il l'avait voulu. Ces gens-là n'ont pas regardé le côté des ordres et des interdits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Méditez bien cela. وهذا احتجاج منهم بالقضاء والقدر. Le Cheikh Saleh Al-Fawzan nous dit, et ceci est une manière pour eux d'argumenter ou se justifier par le destin. Wal'iyadhu billah. لا يطعمون الفقراء ولا يعطونهم ويزعمون أن الله هو الذي أفقرهم ويحتجون بذلك على ترك الصدقة. Pour délaisser l'aumône qu'Allah leur a ordonné, ils disent « Ces gens-là sont pauvres parce qu'Allah a décrété qu'ils étaient pauvres. Allah les a rendus pauvres. Donc pourquoi les nourrir? C'est lui qui l'a voulu. Oui, mais celui qui a voulu les rendre pauvres a voulu que tu donnes de ton argent pour eux. Subhanahu wa ta'ala. Celui qui a décrété qu'une agression se passe devant toi, t'a ordonné de défendre la victime. Et ainsi de suite dans toute chose. On ne peut pas dire c'est décrété par Allah subhanahu wa ta'ala. Ces mêmes personnes, si des gens chers parmi leurs proches souffraient et étaient pauvres, est-ce que d'après vous ils diraient pourquoi les nourrir alors que si Allah le voulait, il les aurait nourris? D'un coup il n'y a plus cela? Donc ça c'est ce qu'on appelle le suivi des passions. Et ce qui est demandé aux croyants sincères, c'est de suivre les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les paroles, le verset cité par l'imam Ibn Taymiyyah, وَقَالُوا لَوْ شَاءَ الرَّحْمَنُ مَا عَبَدْنَاهُمْ. Ils dirent, si le tout miséricordieux l'avait voulu, on ne les aurait pas adorés. Lorsqu'on les a blâmés pour avoir adoré autre qu'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'ils ont répondu? Allah l'a décrété. Et si Allah l'avait voulu, si Allah avait voulu décréter autrement, on n'aurait pas adoré les divinités en dehors d'Allah, parmi les idoles. Et ceci, ils l'ont dit pour répondre aux messagers qui les ont appelés au tawhid, qui les ont appelés à l'unicité d'Allah. Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah a dit « وَلَوْ هُدُوا لَعَلِمُوا أَنَّ الْقَدَرَ أُمِرْنَا أَنْ نَرْضَى بِهِ وَنَصْبِرَ عَلَى مُوجِبِهِ في المصائب التي تصيبنا كالفقر والمرض والخوف. قال تعالى ما أصابكم من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال بعض السلف هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. وقال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. S'ils avaient été guidés dans le droit chemin, ils auraient su que nous avons eu l'ordre de croire au destin, d'en être satisfait. Nous parlons ici du pilier de la foi qui est la croyance au destin. Cette question-là, oui, nous devons y croire, nous devons en être satisfaits. وَنَصْبِرْ عَلَى مُوْجِبِهِ مِنَ الْمَصَائِبِ. Et nous devons patienter à ce qui en découle comme épreuve, comme malheur. Donc il y a ce que l'on appelle la foi au destin. Nous avons l'obligation d'en être satisfaits du destin d'Allah, Azza wa Jal. Ce qui va découler de cette destinée d'Allah, qui sera le malheur qui atteint la personne, est-ce que la personne a l'obligation d'en être satisfaite? Non. Elle a l'obligation de patienter, mais pas l'obligation d'être satisfaite. Être satisfaite du malheur qui touche la personne, on ne parle pas de la base. La croyance au destin. Ça, tu dois en être satisfait. Mais ce qui va en découler comme malheur qui touche telle personne précisément, est-ce qu'elle a l'obligation d'en être satisfait ou non? Elle a l'obligation de l'accepter, de patienter. Mais d'en être satisfait, c'est le meilleur niveau de la foi. Ce n'est pas une obligation. Vous avez compris? C'est pour cela que Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit bien, nous avons eu l'ordre d'être satisfait du destin, et dès qu'il passe à la composante du destin, l'épreuve spécifique qui touche la personne, wa nasbiru ala mujibihi fil masa'ib, et de patienter devant ce qui en découle comme malheur, allati tusibuna, qui nous atteint, tel que la pauvreté, la maladie, la peur. Allah Azza wa Jalla a dit dans le sens du verset, aucun malheur ne vous a touché sans qu'il ne soit dû, sans qu'il ne soit par la volonté d'Allah. Et quiconque a foi en Allah, il guidera son cœur. Certains parmi les peu prédécesseurs ont dit, et pour être plus précis, c'est l'imam Al-Qama, rahimahullah, qui fait partie des imams des Salaf. Il a dit, il s'agit dans ce verset de l'homme touché par une épreuve. Il sait qu'elle vient d'Allah. Il est satisfait et il se soumet. Il est satisfait du décret d'Allah et il se soumet. Al-Sheikh Saleh Al-Fawzan, hafidhahullah, dit, on justifie par le destin les malheurs et non pas la désobéissance. C'est-à-dire que lorsque tu es touché par une épreuve, par un malheur, par la perte d'un proche, par la pauvreté, par la maladie, par quelque chose en toi-même ou autour de toi, une épreuve, une douleur, là oui, il t'est demandé de dire « Qaddar Allah wa ma sha'a fa'al » « Allah a décrété ». Il t'est demandé de croire et de dire « C'est le destin, c'est Allah qui l'a voulu ». Mais quand tu commets un péché, il ne t'est pas demandé de t'arrêter là. Il t'est demandé de te repentir, de te corriger, de demander le pardon à Allah, subhanahu wa ta'ala. Car la différence entre les deux, c'est que le péché que tu as commis, tu l'as fait parce que tu l'as choisi. Alors que le malheur qui t'a touché, tu ne l'as pas choisi. Donc tu peux dire qaddar Allah pour le malheur qui t'a touché, que tu n'as pas choisi. Mais tu ne peux pas te contenter de dire qaddar Allah pour quelque chose que tu as voulu, que tu as choisi de faire. Ça serait un très grand égarement. Alors que Iblis a voulu se justifier par al-qadr, lorsqu'il a dit à Allah Azza wa Jalla, Rabbi bima aghwaytani, ô Seigneur, parce que tu m'as égaré. On a deux créatures. On a Iblis et Adam alayhi salam. Les deux ont désobéi. Vous savez que Adam alayhi salam a désobéi. Quelle est la différence entre les deux? Quand Adam alayhi salam a désobéi, ainsi que son épouse Hawa, les deux ont dit, qala rabbana zalamna anfusana. Ô Seigneur, nous nous sommes fait du tort à nous-mêmes. Wa illam taghfir lana wa tarhamna, si tu ne nous pardonnes pas ni ne nous fais miséricorde, lanakunanna min al-khasirin, on sera du nombre des perdants. Alors que Iblis, lui, qu'est-ce qu'il a dit? Rabbi bima aghwaytani, ô Seigneur, comme tu m'as égaré. Il s'est justifié par le destin. Quel est le résultat? Iblis est maudit par Allah Azza wa Jal. Adam a été pardonné et agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc regarde, lorsque la personne se justifie par le destin et lorsque l'autre dit astaghfirullah wa atubu ilayh. Tout simplement. فالمؤمن لا يحتج بالقضاء والقدر على المعصية ويعتذر لنفسه بذلك. Le croyant ne se contente pas de se justifier par le destin lorsqu'il désobéit, en essayant à travers cela de se trouver une excuse. بل يتوب إلى الله ويستغفر ويندم. il se repent à Allah, il demande son pardon et il regrette. Et c'est la différence entre Iblis et Adam, comme nous dit le Cheikh Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala. Concernant le verset, « Ma asaba min musibatin illa bi idhnillah, wa man yu'min billahi yahdi qalbah, aucun malheur n'a atteint une personne sans qu'il ne soit par la volonté d'Allah, et quiconque a foi en Allah, il guidera son cœur. » C'est-à-dire, sans qu'il ne soit par la volonté d'Allah ici c'est le destin, al-qadar. Et celui qui croit en Allah, qui se soumet au destin, qui ne s'enfle pas d'orgueil, qui ne s'oppose pas, qui ne montre pas d'opposition à la décision d'Allah, subhanahu wa ta'ala, va se soumettre, comme l'a dit Al-Qamah, rahimahullah, concernant l'homme qui patiente. Le deuxième verset cité, قال تعالى ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها. Aucun malheur n'est arrivé sur terre, ni en vous-même, sans qu'il ne soit dans un livre, avant même d'être créé, ce malheur. Ici, Allah Azza wa Jal nous montre que les malheurs ont été décrétés par Allah, tabaraka wa ta'ala. Il y a derrière ceci une très grande sagesse, sans le moindre doute. Mais on apprend que tout ce qui nous touche sur terre ou en nous-mêmes, comme difficulté ou autre, a été décrété, a été voulu, a été choisi par Allah, subhanahu wa ta'ala, avant même d'être créé, avant même de faire exister ce malheur, Allah azza wa jalla l'a décrété. Quand tu entends une telle parole, qu'est-ce que tu as comme sentiment en toi? La libération. La libération de tous les soucis. Tu as un problème dans la santé, dans l'argent, dans la famille, dans les difficultés. Avant même que ce problème existe, avant même que cette difficulté existe, elle a été choisie, voulue, décrétée par Allah, subhanahu wa ta'ala. Pour cette raison, Allah te montre tout de suite après la sagesse et te dit Inna dhalika 'ala Allah yasir. Cela est facile pour Allah. Likay la ta'sau 'ala ma fatakum. Afin que vous ne soyez pas attristés à cause de ce que vous avez manqué. Wa la tafrahu bima atakum. Et que vous ne soyez pas enflés d'orgueil. Ici, ce qui est voulu par al-farah, la joie ici, c'est l'orgueil. Et que vous ne soyez pas enorgueillis devant ce que vous avez reçu. Tu es face à deux personnes. L'une a reçu, l'autre a été privée. La personne qui a reçu le bienfait se souvient que cela a été décrété par Allah. Elle ne peut donc pas se sentir meilleure, méritante, meilleure que les autres, s'enfler d'orgueil, parce qu'elle n'a eu que ce qu'Allah a voulu lui donner. Et l'autre qui a été privée ne peut pas se mettre en colère devant cette épreuve, car elle sait que de toute façon, c'est Allah qui l'a choisi. Ce partage vient d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce verset est un verset qui console le croyant quand il est éprouvé par Allah, subhanahu wa ta'ala. Ça peut être les maladies, ça peut être les difficultés, les tristesses, les soucis et toute autre chose. Tout cela est dans un livre avant même d'être créé. Le livre dont il s'agit ici, c'est la table gardée dans laquelle tout le qadar a été écrit sous l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala 50 000 ans avant d'avoir créé les cieux et la terre. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est pour cela que quand une épreuve t'atteint, tu as possibilité de réagir par la désobéissance, de réagir par le péché. Tu as ce libre arbitre, mais dès lors que tu te rappelles que ce malheur-là, tu ne pouvais pas l'éviter. Cela t'aide à revenir dans le droit chemin et à avoir le bon comportement, le bon agissement face à cette épreuve. C'est Allah Azza wa Jal qui a décrété et c'est lui qui nous a ordonné de se soumettre. Wa fi sahihayn 'an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qala ihtajja Adam wa Musa فقال موسى أنت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ فقال آدم: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه، فهل وجدت ذلك مكتوبا علي قبل أن أخلق؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى. البخاري مسلم rapporte ce dialogue qui a eu lieu entre Moussa alayhi salam et Adam alayhi salam. Les savants ont plusieurs paroles. Où est-ce qu'ils ont pu avoir cette discussion? Certains disent que c'est lors de la nuit du voyage nocturne. Vous savez que quand le prophète alayhi salat wa salam s'est rendu vers la Palestine, il a dirigé la prière avec derrière lui tous les prophètes. Et là, Adam a discuté avec Moussa alayhi as-salam. Wallahu ta'ala alam. Allah est plus savant. Qu'est-ce que l'un a dit à l'autre? Moussa a dit à Adam: Ô Adam, tu es celui qu'Allah a créé de sa main. Il a insufflé en toi son âme. Donc quand on dit son âme, c'est-à-dire son âme qu'il a créée. Il a créé une âme et il te l'a insufflée en toi. Il a fait que les anges se prosternent devant toi. Il t'a enseigné le nom de chaque chose, comme on le voit dans Surat al-Baqarah. Pourquoi alors nous as-tu fait sortir du paradis? Parce que vous savez que Adam alayhi salam était au paradis. Il avait le droit de tout faire, sauf de s'approcher d'un arbre. N'est-ce pas? Al-Shaytan l'a tenté, il a succombé. Et comme Allah Azza wa Jalla a dit, وَعَصَى آدَمُ رَبَّهُ فَغَوَى. Adam a désobéi à son Seigneur, il s'est égaré. Mais après, Allah a accueilli son repentir. À cause de cela, Allah Azza wa Jalla a dit, بِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا. Descendez tous d'ici, c'est-à-dire descendez tous du paradis. Et c'est là que l'homme est venu vivre sur terre. Moussa alayhi salam lui a dit: pourquoi nous as-tu fait sortir du paradis? Qu'est-ce que Adam lui a répondu? Il lui a dit: et toi Moussa, tu es celui qu'Allah a choisi, a élu par son message et sa parole, Allah t'a parlé. Est-ce que tu trouves que cela a été écrit avant même que je ne sois créé ou non? Qu'est-ce que Moussa a dit? Na'am, oui. Il a ramené cela au Qadar. Moussa a dit oui. Et il s'en est. La discussion s'est terminée ainsi. Et donc Adam alayhi salam a argumenté par le Qadar. Ceux qui ont la mauvaise compréhension, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit: regarde, Adam a désobéi à Allah et il s'est justifié quand il a été blâmé par son frère Moussa alayhi salam par le destin. Il a dit: est-ce que tu sais que c'était décrété? Moussa a dit oui et il n'a plus manifesté quoi que ce soit après cela. La discussion est close. Et la réponse, la bonne explication va nous être donnée par l'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Car cette compréhension est fausse, celle que vous venez d'entendre est fausse. Wa Adam alayhi salam لم يحتج على موسى بالقدر ظنا أن المذنب يحتج بالقدر فإن هذا لا يقوله مسلم ولا عاقل ولو كان هذا عذرا لكان عذرا لإبليس وقوم نوح وقوم هود وكل كافر ولا موسى لام آدم أيضا لأجل الذنب فإن آدم قد تاب إلى ربه فاجتباه وهداه ولكن لامه لأجل المصيبة التي لحقتهم بالخطيئة ولهذا قال فلماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة فأجابه آدم أن هذا كان مكتوبا قبل أن أخلق. ابن تيمية رحمه الله nous dit ensuite: ainsi Adam عليه السلام ne s'est pas justifié face à Moussa par le destin en pensant que le pécheur peut se justifier par le destin. Non. Un musulman ne dit pas une telle parole, non plus un individu doué de raison. Et si c'était une excuse, alors Iblis aurait été excusé. Le peuple de Nuh, le peuple de Hud, et toute personne mécréante aurait pu avoir cette excuse. Donc là, vous comprenez bien qu'il ne s'agit pas de ça dans le dialogue entre les deux prophètes. Moussa non plus, méditez bien, n'a pas blâmé Adam à cause du péché qu'il a commis. Est-ce que vous voyez dans le texte que Moussa a dit à Adam « Limada asait, limada adnabt, pourquoi as-tu désobéi? Pourquoi as-tu péché ?» Non, il lui a dit « Limada akhrajtana wa nafsak, pourquoi nous as-tu fait sortir, ainsi que toi-même, du paradis ?» Il ne parle donc pas du péché que Moussa a fait, il parle de la sortie du paradis pour habiter sur terre. Et la sortie du paradis pour habiter sur terre, c'est un malheur. C'est de cela que Moussa alayhi salam a parlé. Moussa n'a pas parlé du péché que Adam a commis, car Adam s'est repenti et Allah a agréé et accepté son repentir. Comment est-ce que Moussa va-t-il venir après pour dire cela? Moussa est un prophète. Moussa n'a pas dit cela alayhi salam. Moussa a concentré sa parole sur le malheur que représente la sortie des gens du paradis pour venir vivre sur terre. Et ça, c'est un malheur. Et comme c'est un malheur, Adam peut justifier le malheur par le destin. Et il a répondu à Moussa alayhi salam, à ton avis, est-ce que cela a été écrit avant même que je ne sois créé? Cela, de quoi il parle? Du péché? Non. Il parle de la sortie du paradis. Est-ce que ma sortie du paradis, qui est un malheur, une épreuve pour nous les hommes, a été décrété par Allah avant que je ne sois créé? Moussa a dit oui. Et la discussion s'est close. Vous voyez la différence? Donc en réalité, ce hadith-là n'est pas une preuve pour ceux qui se justifient par le destin en désobéissant à Allah. Mais c'est une preuve contre eux, en réalité. Mais pour cela, il faut la compréhension saine. La compréhension qui n'est pas entachée et pollué par la bid'a, l'innovation, ou les pensées égarées et les façons de penser qu'on ne retrouve pas dans le Coran et dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc si quelqu'un vient et te dit même Adam alayhi salam a dit c'est Allah qui l'a décrété, comment peux-tu me blâmer? Maintenant tu sais quoi lui répondre. Tu lui dis, de quoi est-ce que Adam parle? Et tu verras que Adam alayhi salam parle de la sortie du paradis et pas du péché qu'il a commis. Il y a donc deux choses qui sont séparées. Une pour laquelle il s'est repenti à Allah, l'autre pour laquelle il a dit Qaddar Allah, subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que doit agir le croyant. Alhamdulillah, ala hadha al-bayan min Allah subhanahu wa ta'ala. Et tu remarques dans ce même hadith que Moussa ne lui a pas dit pourquoi as-tu désobéi, pourquoi as-tu péché. Il n'a parlé que de la sortie. Pourquoi nous as-tu fait sortir? Il parle donc de ce qui a résulté de son péché et non pas du péché en lui-même. Comme nous dit le Cheikh Al-Fawzan, il ne lui a pas dit limada akalta min ash-shajara, pourquoi as-tu mangé de l'arbre, limada adnabt, pourquoi as-tu péché, ni rien de cela. Ensuite, l'imam ibn Taymiyyah rahimahullah dit فَكَانَ الْعَمَلُ وَالْمُصِيبَةُ الْمُتَرَتِّبَةُ عَلَيْهِ مُقَدَّرًا وَمَا قُدِّرَ مِنَ الْمَصَائِبِ يَجِبُ الْإِسْتِسْلَامُ لَهُ فَإِنَّهُ مِنْ تَمَامِ الرِّضَى بِاللَّهِ رَبَّا. Il dit, le malheur qui a découlé de l'action faite par Adam, alayhi salam, quand il a désobéi à Allah, il en a découlé la sortie du paradis, n'est-ce pas? Ce malheur-là a été décrété par Allah. Et il est obligatoire de se soumettre au décret d'Allah face au malheur. Car cela fait partie de la croyance en Allah comme Seigneur. Celui qui est satisfait d'Allah comme Seigneur doit se soumettre au décret d'Allah quand il y a un malheur. وَأَمَّا الذُّنُوبِ فَلَيْسَ لِلْعَبْدِ أَنْ يُذْنِبِ. Quant au péché, nous dit Ibn Taymiyyah, il n'appartient pas au serviteur de pécher. Il ne dit pas, il est impossible que le serviteur pêche. Il dit, le serviteur n'a pas le droit de pécher. وَإِذَا أَذْنَبْ. Et s'il commet un péché, car il est de nature humaine, il penche vers le péché, فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْتَغْفِرَ وَيَتُوبُ. Il a alors le devoir de demander pardon et de se repentir. فَيَتُوبُ مِنَ الْمَعَائِبِ وَيَصْبِرُ عَلَى الْمَصَائِبِ. Il se repent à Allah des défauts et il patiente devant les difficultés. قَالَ تَعَالَى. Et maintenant il va nous citer quelques versets nous montrant la réalité universelle lié à la réalité religieuse. La foi au destin lié à l'obligation d'obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah azza wa jalla a dit: Fasbir, inna wa'ada Allahi haqq, wastaghfir li dhanbik. Patiente, certes la promesse d'Allah est vérité et implore le pardon pour ton péché. Donc ici, Allah Azza wa Jal ne nous ordonne pas uniquement de patienter, mais aussi de demander le pardon, de te corriger. Al-Sheikh Salih al-Fawzan, hafidhahullah, nous dit « لو غلبه الشيطان ونفسه الأمارة بالسوء وأذنب فهذا يقع من بني آدم. » Si le serviteur est vaincu par le diable et par son âme incitatrice au mal, le fils d'Adam est sujet à ce genre d'erreur. حَتَّى مِنَ الصَّالِحِينَ مِنْهُمْ فَلَيْسَ هُنَاكَ أَحَدٌ مَعْصُومٌ غَيْرُ الْأَنْبِيَاءِ. Personne n'est infaillible, à l'exception des prophètes. وَلَكِنَّ الْمُؤْمِنَ يَتُوبَ إِلَى اللَّهِ. Mais le croyant se repent à Allah. وَلَا يَقِفُ عِنْدَ الْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ. Il ne s'arrête pas au destin quand il désobéit à Allah, comme Iblis l'a fait, comme les polythéistes aussi l'ont fait. Il se repent des péchés et il patiente face aux décrets douloureux qu'Allah a décrété par sa sagesse. Également, les autres versets qui ont été cités, Allah Azza wa Jal dit « Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kayduhum shay'a. » Si vous patientez et faites preuve de piété, et la piété c'est l'obéissance d'Allah, leur ruse ne vous nuira en rien. Dans l'autre verset, وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَٰلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ. Et si vous patientez et faites preuve de piété, cela fait partie des choses les plus importantes auquel Allah nous a encouragés. Yusuf alayhi salam a dit, vous connaissez un peu l'histoire de Yusuf qui a terriblement été éprouvé, il a enduré, il a fait preuve de piété, quel fut le résultat? Allah l'a élevé. Innahu man yattaqi wa yasbir, fa inna Allah la yudhi'u ajr al-muhsinin. Il a dit, quiconque fait preuve de piété et patiente, certes, Allah ne laisse pas la récompense des bienfaisants se perdre. Donc qu'est-ce qu'on voit dans tous ces versets? Il y a la patience et la croyance au destin. Mais il y a aussi l'obéissance, la piété, les ordres d'Allah. Subhanahu wa ta'ala, on ne doit pas détacher l'un de l'autre. L'imam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit aussi: وَكَذَلِكَ ذُنُوبُ الْعِبَادِ يَجِبُ عَلَى الْعَبْدِ فِيهَا أَنْ يَأْمُرَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ بِحَسَبِ قُدْرَتِهِ وَيُوَالِيَ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ وَيُعَادِيَ أَعْدَاءَ اللَّهِ وَيُحِبَّ فِي اللَّهِ وَيُبْغِضَ فِي اللَّهِ. Il dit également: en ce qui concerne les péchés du serviteur. Le serviteur a l'obligation d'ordonner le bien et d'interdire le mal selon ses capacités, n'est-ce pas? Mais si on disait à la personne, Qaddar Allah, la personne commet des péchés, elle nous dit c'est Allah qui l'a voulu, on ne pourrait plus ordonner le bien aux gens. On ne pourrait plus interdire le mal aux gens. Et là, on perdrait quelque chose de très grand, qui est une des bases dans notre religion. Le prophète, alayhi salat wa salam, a dit, « Man ra'a minkum munkara, quiconque parmi vous voit une chose blâmable, fal yughayyirhu biyadi, qu'il change cette chose par sa main, fa illam yastati', s'il ne le peut pas, fa bilisani, alors par sa langue. » فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ s'il ne peut pas, فَبِقَلْبِ alors par son cœur. وَذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ Cheikh Salah al-Fawzan nous dit, فَكَوْنُ اللَّهِ شَرَعَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ بِحَسَبِ الْإِسْتِطَاعَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ لَا حُجَّةَ بِالْقَضَاءِ وَالْقَدَرِ إِلَّا كَانَ حُجَّةً مَا شَرَعَ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَالنَّهِي عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَمَا كَانَ لِذَلِكَ فَائِدَةً Le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous ait ordonné d'appeler au bien, d'interdire le mal, selon les capacités bien sûr, est une preuve qu'il n'y a pas d'argument avec le destin quand la personne désobéit. Sinon, tu ne peux plus l'appeler au bien et lui interdire le mal. Car s'il y avait en cela un argument, il n'aurait pas légiféré le fait d'appeler au bien et d'interdire le mal. Et il n'y aura aucun intérêt à cela. Également, il est obligatoire d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, subhanahu wa ta'ala. Il est obligatoire d'aimer ce qu'Allah aime et de détester ce qu'Allah déteste. Mais si l'on disait que la personne qui commet le péché, qui désobéit à Allah, peut se justifier par le qadar, alors on ne pourrait pas, dans notre amour pour les gens, faire de distinction entre celui qui est pieux et celui qui ne l'est pas. Car celui qui ne l'est pas, d'après cet argument-là, c'est le destin d'Allah. Pourquoi le détester alors? Pourquoi lui en vouloir alors? Vous voyez où est-ce que ça amène? C'est gravissime. Et c'est pour ça que l'imam Ibn Taymiyyah, rahimahullah, maintenant va montrer tout ce qui va découler jusqu'à ce qu'il va arriver à la pire des mécréances dans laquelle les gens sont tombés dans ce domaine-là. Mais c'est ce dont on va parler dans la prochaine assise. Inch'Allah, wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk.